bunch of those pockets.
Yeah. Well, not the city.
I'm trying to get a see if I can do it.
And when they're out having to be so I'm gonna go and make it another mountain and just
welcome everybody.
Bonjour à tous, je suis Julie du personnel ICANN. Nous allons commencer le DNSSEC pour tous dans quelques minutes. Je vous encourage donc à venir dans la salle et à vous asseoir. Venez devant, venez près de nous. Et puis ensuite, nous aurons du temps dédié aux questions-réponses. Mais pour l'instant, nous aimerions que vous veniez nous rejoindre. Nous allons commencer très bientôt. Bienvenue encore une fois à la session DNS pour tous, un guide du débutant.
I haven't used slides yet. I've done about 3 presentations.
I'll leave him on.
I saw what
Welcome everyone, and please continue to come in the room and find your.
Veuillez bien venir nous rejoindre. Trouvez vos chaises. Trouvez des chaises. Asseyez-vous. Nous attendons que tout le monde soit là pour commencer. Donc, il s'agit de la réunion du DNSSEC pour tous, comme vous le voyez sur l'écran. Merci.
Yep.
Are we good to go?
We're going to get going.
Going to get rolling.
Bon après-midi à tous. Comment allez-vous? Nouvel intervenant sur le panel. Ah, je m'appelle Dan York. Nous allons parler du DNSSEC pour tous. Je suis désolée pour le retard. Nous pensions avoir la vidéo dans cette salle. Mais nous allons faire un sketch, en fait. Et maintenant, nous avons dit tous à distance que nous allions avoir une vidéo, mais en fait, nous n'avons pas de vidéo. Nous essayons de voir si nous pouvons faire autre chose pour avoir donc cette vidéo. Ça n'a pas fonctionné. Nous allons continuer et nous allons ainsi faire notre sketch. Nous avons de l'interprétation, donc nous allons devoir tous parler lentement. Et moi, je suis la première victime parce que vous ne voulez pas que je me mette à parler français. Après avoir dit « je m'appelle Dan, je suis un comptable », c'est tout ce que je peux dire. Pamplemousse, hein, je connais le mot pamplemousse, j'essaye. Combien d'entre vous connaissent quelque chose du DNSSEC ou de la sécurité DNSSEC? Quelques personnes. Combien de personnes ont assigné un domaine avec le DNSSEC? Combien d'entre vous ont leur résolveur validé? Combien d'entre vous ne savent pas ce que c'est qu'un résolveur validé? Donc, si vous regardez l'ordre du jour, vous avez dû recevoir d'ailleurs un agenda comme celui-là. Si vous n'en avez pas, nous avons des feuilles avec cet agenda. Dans cette réunion, je vais vous parler de ce qui aurait pu être l'histoire du DNSSEC. Donc, expliquer ce qui rend le DNSSEC si important et si spécial, disons. Nous allons parler des concepts derrière le DNSSEC, utiliser des exemples, etc. Vous voyez qu'il y a des gens autour de nous qui ont déjà des t-shirts. Cela va nous permettre de faire un sketch et de vous raconter une petite histoire. Je vais commencer. J'avais poussé le bouton dans le mauvais sens. Bon, nous allons commencer par revenir en arrière. Nous allons aller vers les origines du DNSSEC, 5000 ans avant Jésus-Christ. Vous êtes prêts? Voilà, ça c'est Uguina. Elle vit dans une grotte sur le bord du Grand Canyon. Et voilà Og. Il vit dans une grotte de l'autre côté du Grand Canyon. Ils habitent loin l'un de l'autre. Cela prendrait beaucoup de temps pour faire le tour. Il faut qu'ils descendent et qu'ils remontent. Donc, ils ne se parlent pas souvent. Donc, durant une de leurs visites, ils se sont rendus compte qu'il y avait de la fumée qui sortait de leur feu. Cette fumée montait, donc ils ont eu cette idée. Oh tiens, on pourrait commencer à utiliser des signaux de fumée et on pourrait parler d'un côté et de l'autre du canyon. Du moins communiquer. Un jour, le futé Kaminsky déménage à côté de chez Og, et puis il commence à envoyer lui aussi des signaux de fumée. Maintenant, pour Uguina, c'est la confusion. Elle ne comprend pas qui envoie les signaux de fumée. Elle ne sait pas quels signaux de fumée ont l'information correcte. Elle ne sait pas. Elle est désorientée. Donc, elle décide de descendre dans le canyon pour trouver la réponse. Et Uguina et Og vont voir le sage du village et qui s'appelle Dipi. Mais il a une petite idée de ce qui pourrait être fait pour régler le problème. Il va donc dans le fond de la cave de la grotte de Hog. Et dans cette grotte, il trouve une pile de sable bleu bizarre. C'est un sable qu'on ne trouve que dans la grotte de Hog. Donc il revient en courant et il jette de ce sable bleu dans le feu. Et la fumée devient ainsi bleue. Et d'un seul coup, Uguina et Og peuvent se parler, peuvent communiquer d'un côté et de l'autre du canyon parce que elle sait que la fumée bleue, c'est celle qui l'intéresse. Donc tous les autres signaux de fumée qui viennent ne sont pas intéressants pour elle. En fait, c'est ce que l'on fait avec le DNSSEC. On fournit, c'est un peu une fumée bleue spéciale, quelque chose d'unique que vous pouvez offrir en disant, voilà, ceci est l'information que j'ai besoin de donner. Personne a la couleur de ma fumée. La fumée de Marc peut être rouge, celle de Bob peut être verte, l'autre orange, chacun a sa couleur. Mais vous avez donc une façon unique de faire les choses. DNSSEC vous fournit une façon de différencier vos informations pour vous assurer que vous donniez l'information précise. Pour regarder cela plus en détail, à un très haut niveau, si vous avez vu ce genre de graphique du DNS, vous voyez la racine, vous avez les TLD différents, et puis ensuite, vous avez les domaines de second niveau. Voilà la structure telle qu'elle est. Chacun d'entre nous, lorsque nous allons sur un site web, quand nous envoyons des courriels, tout ce que nous faisons sur Internet, nous utilisons un résolveur DNS sur nos téléphones, sur nos ordinateurs. Il y a donc des résolveurs qui utilisent les noms de domaine, que ce soit google.com, nick.ma, quels que soient ces noms de domaine, et ils donc échangent les noms de domaine en adresse IP et ils utilisent cela pour communiquer. C'est ce que le DNSSEC fait. Chaque outil a un résolveur. Le résolveur reçoit l'information en retour et la conserve pendant un certain moment. Ça s'appelle un cache. Cela donc conserve ou stocke ces données pendant une heure, une semaine, pendant certaines périodes de temps. Par exemple, l'adresse IP d'ICANN.org peut être telle ou telle IP adresse et elle va conserver les données. Le défi, c'est que le DNS n'a pas de sécurité. Marc, par exemple, peut venir et essayer de s'immiscer et dire entre les deux et donner la mauvaise adresse IP à quelqu'un d'autre. On va le croire parce que Marc est plus près. Donc, il peut dire la personne à côté de lui, avant que moi j'intervienne, quelle est la manière de faire telle ou telle chose. Donc, voilà ce qui manque au DNS. Les caches aussi peuvent être facilement empoisonnés. Cela veut dire, si le résolveur de ce monsieur reçoit l'information de Marc avant la mienne, il va utiliser cette information jusqu'à ce qu'elle soit expirée, jusqu'à ce que... Nous en parlerons d'ailleurs tout à l'heure, nous allons faire un petit sketch à ce sujet. Je vais donc amener les acteurs du DNSSEC sur la scène. Nous avons un groupe d'acteurs. Nous avons donc une équipe qui se vêt de leur t-shirt. Je ne suis pas la personne qui raconte d'habitude. Donc, malgré tout, je vais vous présenter tout le monde. Nous sommes un peu désorganisés. Ce qu'on va faire, c'est un petit sketch. Et vous voulez bien vous organiser? Ça va aller? Alors, Monsieur West qui va jouer le rôle de l'utilisateur final, Joe, l'utilisateur. Et puis, vous avez Jacques Latour qui va être le ISP. Nous avons Andrew qui va faire le serveur racine au centre donc de l'action du DNS. Juan va être le serveur com et puis Ross va être le serveur banque. Donc, le DNS, c'est un distributeur de bases de données massif. Nous allons faire ce petit sketch à ce sujet. Ceux d'entre vous qui connaissent le DNS, vous allez voir que nous allons prendre un peu des libertés sur le fonctionnement des choses. Hein. Nous voulons vous donner donc une idée générale de ce qui se passe. Nous allons utiliser quelques scénarios. Nous allons tout d'abord faire utiliser la banque en ligne. Joe, l'utilisateur, veut aller faire quelque chose sur le site de sa banque. Il veut aller sur www.bigbank.com. Voilà ce qui va se passer. Donc, Joe parle. Je veux aller payer ma facture d'électricité. Donc, amenez-moi à ma banque. Amenez-moi à www.bigbank.com. Je veux payer ma facture d'électricité. Je ne sais pas exactement où c'est sur l'Internet, donc je vais demander à l'ISP où ça se trouve. Où se trouve ma banque? Alors, Wes au micro, je suis le serveur. Je viens juste de me réveiller. Je ne connais rien. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, il faut que j'aille voir où se trouve bigbank.com. Je reviens vers vous avec une réponse tout à l'heure. Tout ce que je sais, c'est, je sais où se trouve la racine. Donc, je vais voir la racine. Bonjour, Ruth. Je cherche www.bigbank.com. Vous savez où c'est? Alors, le serveur racine répond et dit, ah, je ne sais pas où ça se trouve, mais je sais où est .com. Et je sais que c'est à .1.1.1. Donc, je vais aller sur .1.1.1. Va voir, bonjour, .com. Vous savez où se trouve bigbank.com? Juan au micro, je ne sais pas où c'est, mais je sais où c'est bigbank.com. C'est à .2.2.2. Vous devriez aller leur demander. Merci. Bonjour, Big Bank. Je cherche bigbank.com. Vous savez où c'est? Oui, en fait, répond Big Bank. En fait, je sais où ça se trouve, bigbank.com. C'est à 2.2.2.3. Ah, une réponse. Très bien. On revient vers l'utilisateur et je lui dis, voilà, l'adresse est .2.2.2.3. Maintenant, dit Joe, je vais pouvoir envoyer $1,000 à ma compagnie d'électricité. On les applaudit. Cette communication entre Joe qui parle à son ISP, son résolveur, c'est une situation qui se passe souvent. Des milliers de fois, à chaque fois qu'on ouvre une page web, chaque fois qu'on communique avec qui que ce soit, avec quelles que soient les applications, tout ce qui doit nous donner une adresse IP. Quand on parle de du vrai côté des choses, du côté du cache, vous savez que l'ISP aura déjà la racine a déjà toute l'information, ainsi l'ISP peut retourner vers Joe rapidement et dire « Ah oui, je sais aussi où c'est parce que Joe, l'utilisateur, a déjà toutes ces informations dans son cache. » Mais ça ne va pas aider notre histoire, donc on évite de parler de cela. Est-ce qu'on est prêt maintenant pour l'autre scénario? Maintenant, nous allons montrer ce qui se passerait avec le DNS régulier, disons, sans le DNS sec. C'est juste le DNS comme serait le cas aujourd'hui. Joe va recommencer. Seulement, vous allez voir qu'il va se passer quelque chose de différent cette fois-ci. Joe, mon Dieu, j'ai oublié de payer ma facture d'électricité. Donc, je vais aller à je vais retourner voir bigbank.com, mais je ne me souviens pas où c'est. Est-ce que, monsieur l'ISP, vous pouvez me dire où se trouve bigbank.com? Oh, monsieur l'ISP dit, ah non, je viens de me réveiller, je ne connais pas l'information, mais je sais où se trouve la racine. Allô, bonjour, monsieur Root. Monsieur Racine, je cherche bigbank.com, vous savez où c'est? Ah, la racine répond, je ne sais pas où ça se trouve, mais je sais où est .com. .com est à 1.1.1.1. Merci, boum, 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 je vais vers .com et je dis, voilà, je cherche bigbank.com, vous savez où se trouve? Ah, .com répond, je ne sais pas où c'est, mais je sais que bigbank.com est à 2.2.2.2. Ah, ISP dit, non, je suis désolée, je continue à poser des questions, je ne suis pas très intéressant, pas très intelligent, pardon. Big Bank, vous savez où ça se trouve? Oui, vous pouvez trouver cela à 6.6.6.6. Ah, c'est bien, merci beaucoup. Ah, je reviens vers Joe. Joe, vous savez, votre bigbank.com se trouve à 6.6.6.6. Oh, Joe, oh, merci. Ma facture d'électricité est très élevée ce mois-ci. Je dois 1 million de dollars, mais je suppose que je dois payer. On les applaudit. Comme vous l'avez vu, ce qui s'est passé, c'est que Jay, qui jouait donc le diable, c'est l'homme du milieu. L'homme au milieu. Il a donné la mauvaise réponse à Ross. En fait, il a été plus rapide que BigBang.com. Il est arrivé plus rapidement, donc il a donné la mauvaise information. Il a poussé Ross et il a donné sa propre information. Jay est arrivé et il a donné donc cette information avant lui. Donc c'est l'attaque fondamentale que nous essayons de prévenir avec le DNSSEC. Nous essayons de prévenir les gens pour qu'ils n'obtiennent pas la mauvaise information. Et ça, c'était même avant que l'utilisateur soit connecté sur le site. Il n'était même pas arrivé à BigBang.com. On essaie donc de nous assurer que Joe arrive sur le bon site. C'est ça qu'on essaye de faire. Donc maintenant, alors, quand je parlais, ils ont déjà commencé à continuer avec le sketch. Donc pour faire la sécurité, pour assurer la sécurité, nous savons qu'il y a deux parties. Il y a la partie de signature pour les opérateurs de zone qui doivent mettre une signature cryptée. Ils doivent signer leur zone. Cela veut dire que cela prend donc un logiciel qui génère une signature qui, à la base, explique que, voilà, l'information est juste, est exacte. Par exemple, si vous pensez à des médicaments qui sont enveloppés et qui sont scellés, disons, vous pouvez pas ouvrir les boîtes de médicaments parce qu'ils sont dangereux. Et cela est mis en place par l'usine, si vous voulez, la manufacture de ces médicaments. On ne peut pas les ouvrir parce qu'ils sont dangereux. C'est exactement ce qu'on fait. On essaie de protéger l'information dès le départ. Donc, ils vont signer et ils vont faire passer l'information entre Big Bank jusqu'au TLD. Et ensuite, le TLD va passer l'information à la racine. Donc, il crée une chaîne de confiance. Donc, un attaquant, disons, ne peut pas prétendre à une signature, ne peut pas s'immiscer. Du deuxième côté, vous voyez, notre ISP ici doit vérifier cette signature. Parce que si de ce côté-là, ils ont signé, c'est très bien. Mais si lui ne vérifie pas cette signature, ça ne sert à rien. Il n'y a pas de sécurité ajoutée. Donc, il va valider la validation DNSSEC. Il va valider la signature. Il va s'assurer que toutes les informations sont correctes. Donc, notre prochain sketch, l'acte 3. En fait, l'acte 3, nous avons déjà fait avec la signature et tout ça. C'est fait. Nous allons passer à l'acte 4. Et nous allons voir comment cela va se passer avec le DNSSEC. Alors, Joe, au micro, l'utilisateur, je vais envoyer à Dan de l'argent. Donc, je vais aller à BigBang.com et je vais transférer de l'argent à mon ami. Bon, je vais passer l'information à mon ISP qui a un résolveur validé. Alors, l'ISP dit, bon, vous avez fait une bonne décision, vous voulez aller à BigBang.com? Ah, voilà, je suis l'ISP, je me réveille, je ne connais rien, je vais demander à la racine s'il sait où se trouve BigBang.com. Je suis le serveur racine, je dis, voilà, je ne sais pas où se trouve BigBang.com, je sais où se trouve .com. C'est à 1.1.1.1. Et puis, je vais signer l'information, par contre, valider avec ma signature. Voilà, c'est fait. ISP dit, ah, ben c'est très bien, la signature correspond, elle est validée, c'est bon. Maintenant, je vais voir .com. Alors, bonjour .com. Je veux aller à www.bigbang.com. Vous savez où se trouve bigbang.com? Oui, je sais où ça se trouve. .com répond, je sais où ça se trouve. C'est à 2.2.2.2. Voilà ma signature de validation. Allez-y. Alors, ISP dit, bon, je vais vérifier votre signature. C'est bon, maintenant, je vais à BigBang.com. Je veux aller... Bonjour, monsieur BigBang.com. Je veux aller à BigBang.com. Ah, intervient intervient le diable. C'est à 6.6.6.6. Merci beaucoup. Merci, je vais vérifier votre signature. Ah non, c'est pas bon. C'est pas bon. Partez, laissez-nous tranquilles. Vous croyez ça un peu? Ah, BigBang.com dit merci, monsieur ISP. Je sais où se trouve BigBang.com. Eh, c'est à 2.2.2.3. Et voilà, je vais signer, valider avec ma signature. ISP répond merci. Merci, je vais vérifier votre signature. Cela correspond. Merci beaucoup. Voilà, joue l'utilisateur. L'adresse IP est 2.2.2.3. Joe, ah, maintenant je peux envoyer de l'argent à mon ami. Le narrateur reprend le micro. Très bien, très bien. Tout cela est très bien. On les applaudit. Maintenant, une question pour vous. Qu'est-ce qu'a dû faire Joe l'utilisateur dans ce scénario? A-t-il dû faire quelque chose? Non. Cela a fonctionné pour lui derrière les coulisses, si vous voulez. L'ISP, qu'a-t-il fait? Il a validé, il a vérifié la signature. Et toutes les autres choses se sont passées entre les serveurs. En fait, à un niveau très simple, c'est ce qui se passe au sein du DNSSEC. C'est ce que nous essayons de faire. Nous essayons de prévenir le diable de rentrer, de s'immiscer dans la conversation. Nous allons parler un peu de toutes ces étapes. Mais voilà donc le processus fondamental, de base. Vous comprenez? C'est bon? On va faire donc une révision d'un couple de choses, de deux, trois choses. On a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Et ça, et on en est là. Deux, trois choses dont on a parlé. On a parlé de signature numérique et on a parlé de clés. Avoir des clés qui correspondent à vos informations. Donc, quand vous publiez votre information dans le DNS, comme vous l'avez toujours fait, vous publiez aussi une signature. Vous générez cela et le logiciel, il existe pour faire cela. Vous pouvez publier ça. Toutes ces informations sont conservées dans le DNS. Le résolveur sait qui. Ah, excusez-moi, il y a une pièce qu'on a oubliée. Quand le résolveur va vers la racine et demande une vérification de signature, le résolveur connaissait déjà la clé de la racine. Elle connaissait cette clé qui était derrière cela. Une des choses que vous allez entendre parler dans le monde des DNSSEC, c'est cette discussion de retour de clé. Il faut changer la clé. On en parlera d'autres plus mercredi durant notre atelier technique. C'est ce qui donc permet aux bonnes informations d'être transférées. Quand on sait qu'il y a une mauvaise information, qu'il y a une rejection, un rejet, disons, ce qui se passe, c'est que l'ISP fait une autre demande et trouve le bon serveur et reçoit la bonne information. On a fait cela. Et donc, je vais passer le micro à Ross pour qu'il nous passe des détails un peu plus techniques. Et ensuite, nous reviendrons vers vous pour des questions et des réponses. Et nous avons beaucoup de gens ici qui peuvent nous aider si vous avez des questions. Alors, Ross prend la parole. Très bien. Maintenant, je ne suis plus BigBang.com. Comme vous le voyez, je suis Ross Mandy, je suis là pour vous aider avec plus d'informations sur toutes les parties techniques du DNSSEC. Pourquoi devons-nous nous préoccuper du DNSSEC? Comme on l'a fait beaucoup, souvent, c'est que il y a donc, comme vous le savez, de plus en plus d'attaques et c'est ce qui rend le DNS si important. Et parce que chaque application chacune des applications, quelles qu'elles soient, sur l'Internet. Car il y a très peu d'exceptions. Il y a très peu de personnes qui utilisent encore des adresses IP. Mais bon, on utilise le DNS pour tout faire sur Internet maintenant. Donc, quelqu'un veut attaquer une application, où est-ce qu'il va commencer? Il va commencer au sein de l'application et aussi dans le DNS lui-même, en changeant les informations de DNS. Que fait le DNS? Au niveau fondamental, cela change les noms que on aime utiliser en numéros et en changeant l'infrastructure pour faire bouger donc les données d'un point à un autre. Donc, on va à un bon endroit ou à un mauvais endroit. Et vous, en tant qu'utilisateur, vous n'avez aucune façon de savoir ce qui se passe. Et c'est vraiment un problème très sérieux. Et c'est donc la menace d'usurpation dont on parlait. Lorsqu'il y a des attaques d'usurpation, l'utilisateur qui demande une information obtient une mauvaise information. Et ce qui se passe après peut être visible par l'utilisateur ou pas. Mais l'intention de l'attaque est surtout pour faire quelque chose de mauvais ou que ce soit à travers menace un utilisateur ou un serveur. Y a-t-il des outils disponibles pour usurper le DNS? Oui, il y en a. Je ne vais pas vous les montrer sur des diapositives, ça rendrait les choses trop faciles. Je ne veux pas faire de la publicité sur ces outils, bien sûr, mais l'information est sur l'Internet, bien sûr. Il y a un professeur qui donne un cours là-dessus, d'ailleurs. C'est un cours d'informatique qui permettait de construire un logiciel pour attaquer le DNS. Ils utilisaient cela pour enseigner au niveau universitaire. Il n'y avait aucune éthique associée avec cela. C'était juste un exercice de programming, de logiciel. Donc, l'information est là et elle est facile à trouver. Qu'est-ce qu'on essaie de faire avec le DNSSEC? On essaie de protéger l'utilisateur pour qu'il obtienne une information correcte. Et ensuite, nous pouvons aller, que l'utilisateur puisse atteindre l'endroit où il veut aller sur l'Internet. Et vous voilà une diapositive qui donne une illustration de ce que montrait le sketch que vous avez vu. C'est un peu abrévié parce que je n'ai pas utilisé toutes les flèches que j'aurais pu utiliser. Cela passe d'un utilisateur à, par exemple, à .bigbang.com. La demande va vers un serveur de nom et ensuite revient avec la réponse. Donc, quand on compte toutes les demandes d'un point à un autre, vous savez qu'il y en a, il y a 4 paquets d'échanges qui doivent se passer avant que l'utilisateur soit en fait connecté avec le serveur de web. Toutes ces choses se passent dans les coulisses. Et ces choses-là se passent très vite, sont très rapides. Nous avons ici une photo d'un site web qui est là pour montrer à l'utilisateur si le DNSSEC fonctionne de bonne manière ou s'il ne fonctionne pas bien. Une des choses que nous avons fait ici, nous avons un exemple spécifique. Encore une fois, une autre illustration, un autre graphique avec le diable que vous voyez dans le cercle jaune en bas qui donne la mauvaise réponse, etc. Et comme vous voyez à droite, et le diable envoie les gens vers le mauvais site. Dans ce cas-là, vous avez un exemple. Voilà ici des photos de sites que j'ai pris d'un vrai usurpateur pour vous montrer, pour illustrer un peu mon exemple. Alors, nous avions utilisé un site, et quand on utilisait le DNSSEC pour aller sur le site, on obtenait le contenu correct du site. Mais avec un usurpateur, on obtenait juste une portion de cette page. Pas tout le site en entier, mais seulement une portion de la page. Comme vous le voyez, à gauche, le site qui a le DNSSEC, la vérification DNSSEC, vous voyez le contenu du site. Et sur la page de droite, vous voyez il y a une histoire qui est fausse. Vous voyez qu'il s'agit d'une usurpation. C'est juste pour illustrer le point. Donc, ils peuvent usurper tout le site en entier ou seulement une petite portion du site. L'utilisateur, donc, va obtenir la mauvaise information. Tout cela dépend de comment l'usurpateur va travailler.
Alors, cette image ressemble à une illustration. Par exemple, lorsque vous remplissez un formulaire avec plusieurs niveaux. Ici, vous avez une image qui a été produite il y a 8 ou 9 ans. On l'a vérifiée plus récemment, c'est plus dense encore. Donc voilà toutes les étapes par lesquelles il faut passer pour remplir les navigateurs pour le site web du DNS. Plus de 100, beaucoup plus de 100. Jusqu'à il y a quelques années, c'était 70, maintenant c'est plus de 200. Donc, on peut penser de manière générale à un site web et on pense que c'est simple, mais ça ne l'est pas. Les sites web commerciaux sont très longs et ont beaucoup d'implications en termes de DNS. Donc, chacun a affaire à ce type de menace. Donc, l'importance de tout cela est de tout ce qui concerne la protection du contenu du DNS a à voir avec le DNS lui-même. Le DNS est critique pour que les utilisateurs soient assurés qu'ils obtiennent le contenu correct. Mais ça n'est pas plus important que le contenu lui-même. Parce que ce qui est véritablement important, c'est le contenu. Le DNSSEC existe pour s'assurer que le contenu puisse être déterminé par toutes ces étapes. Donc, toutes ces étapes sont aussi importantes que le contenu. Certaines personnes n'ont pas les idées très claires par rapport à cela. Voilà quelques exemples rapides de mise en œuvre. D'abord, le déploiement standard. S'agissant du contenu, également du serveur faisant autorité, du serveur récursif, il s'agit du fournisseur de services Internet qui fait le tour et qui pose des questions, qui fait des demandes et aux questions de Monsieur Joe, de l'utilisateur Joe. Donc c'est la manière dont le contenu est ajouté et sorti. Alors, ce qu'ajoute le DNSSEC, c'est un certain nombre d'étapes supplémentaires pour s'assurer que vous obtenez la mise en place du DNS et que ce contenu est contrôlé et vérifié. Ce qu'on fait ici, c'est de parler du niveau de facilité ou de difficulté pour que le contenu soit vérifié ou si vous êtes un utilisateur ou une grande entreprise, qu'on inclut le DNS, quels sont le type de choses qu'il faut faire pour s'assurer de cela. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout cela parce qu'on veut garder un temps pour que vous puissiez poser vos questions à la fin de cette séance. Donc, voilà le principal message que j'aimerais vous transmettre. Tous les éléments qui concernent le DNS et la sécurité de l'DNS, ça a à voir avec le contenu de des données de zone. C'est le contenu qui fait la différence parce que il faut l'introduire de la bonne manière, il faut le gérer de la bonne manière, il faut le protéger de la bonne manière avec le DNSSEC. Donc, dans le cas d'espèce, ce sont les mêmes étapes. Il s'agit d'une données signées et le serveur récursif fait la validation. Donc il s'agit d'une mise en œuvre de ces deux aspects essentiels. Ces informations sont validées lorsque les données ressortent. Donc, c'est une manière simple de mettre en œuvre le DNSSEC. Donc, en termes de ce que peuvent faire les utilisateurs par rapport à la mise en œuvre au sein de l'organisation, hein, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse d'activités commerciales qui reposent essentiellement sur le DNS, il est fort probable que vous ayez une équipe DNS déjà bien achalandée. Ensuite, cette équipe peut mettre en œuvre le DNSSEC lui-même. En général, c'est ce qu'ils font. Si vous appartenez à une opportunité qui sous-traite ce genre d'activité, alors il faut s'adresser à ces équipes de sous-traitance et leur demander de mettre en œuvre à eux le DNSSEC dans le cadre des activités liées au DNS qu'ils effectuent pour vous. Et si ce n'est pas le cas, il faut, je vous recommande vivement d'envisager de sous-traiter, parce que c'est quelque chose de très important. Demandez à vos fournisseurs, si vous le faites vous-même, ou demandez à vos fournisseurs de services Internet de le faire pour vous. Demandez un soutien DNSSEC. C'est probablement le message le plus important. Est-ce que vous avez le DNSSEC? Et si ce n'est pas le cas, quand est-ce que vous allez l'acquérir? Parce que je le veux et je le veux maintenant. Je suis à votre disposition. Si vous avez des questions, on a des experts qui sont également à votre disposition pour répondre à vos questions. Dan au micro. Merci, je crois qu'on a une demi-heure, on a beaucoup de temps. J'aimerais écouter vos questions dans la salle. Je vous écoute. Allez, je vais marcher un petit peu pour aller vous rejoindre. Alors, je m'appelle Deris de l'Ouganda. J'ai une question qui tient à la sécurité. Je me demande, l'une des manières de s'assurer qu'il y a une sécurité du SSL, du certificat SSL, et comment est-ce qu'on peut s'assurer la sécurité du certificat SSL? Dan au micro, je vais y répondre. D'ailleurs, c'est une excellente question, parce que on peut poser la question, j'ai un TSL ou un SSL, un TLS, pardon, ou un SSL, et je suis protégé, j'ai pas de problème. Or, il y a plusieurs choses qui peuvent se produire. D'abord, vous voyez ici que l'un des domaines d'exposition, justement, c'est celui-là. C'est de vous rendre sur une adresse IP erronée. Donc, menace d'usurpation. Et le DNSSEC peut vous protéger de cette menace spécifique. Mais là, vous passez à un autre niveau, à des questions qui touchent au type de certificat utilisé. Est-ce que j'utilise le bon certificat? Et au sein du DNSSEC, on a quelque chose qui s'appelle le protocole DEN. Il s'agit d'un certificat qui passe par le DNS, qui est signé et vérifié par le DNSSEC. Et donc, on peut savoir, grâce à la signature cryptographique, que c'est validé, c'est correct. Et on l'utilise, par exemple, pour les courriels et autres. Donc, pourquoi ces sites web sont usurpés? Eh bien, en fait, ça implique beaucoup d'autres questions qui se produisent à un plus haut niveau. Il s'agit de celui des applications. Très souvent, leurs sites web ont des problèmes en termes de forme. qui permettent aux gens de les usurper, ou bien on peut rentrer sur les serveurs sans le TLS, parce que le TLS protège la communication entre le serveur et le navigateur. Donc, on protège les données là, mais le DNS protège les données ailleurs. Mais le DNS ne vous protège pas à l'autre niveau, parce que c'est une communication, finalement, entre le serveur et le navigateur. Mais il y a d'autres manières d'usurper. Ross au micro. Oui, alors si vous regardez ici, les flèches rouges, vous voyez les demandes du serveur et en vert, les demandes HTTP, HTTPS. Et ce que fait le DNSSEC, c'est de garantir que vous allez vers le bon serveur web. Si le serveur web lui-même a été attaqué ou a reçu une menace, c'est quelque chose que le DNSSEC ne va pas pouvoir résoudre. Ou si le certificat TLS a été menacé ou que quelqu'un a fait quelque chose parce qu'il a menacé cette sécurité, alors le DNSSEC peut intervenir. Et à chaque fois que vous allez sur un site où il y a des fonctionnalités d'application, alors ce site doit fonctionner correctement. Et le DNSSEC s'assure que vous allez sur le bon site, mais pas que ce site fonctionne de la bonne manière. Intervenante dans la salle, donc la sécurité n'est pas garantie. Dan au micro, non, le DNSSEC vous garantit que vous allez vers la bonne adresse IP, que vous obtenez une connexion cryptée entre les serveurs. Mais ce qui se passe, en fait, pour le serveur, c'est que on est tous sur le navigateur web. Vous travaillez sur votre ordinateur portable ou autre, ça a à voir avec la communication. Le DNSSEC, ça garantit les adresses IP, mais ça ne couvre pas tout. Il y a toute une série de problèmes qui se posent pour les navigateurs web. Autre question dans la salle. Oui, là-bas, au fond de la salle. Alors, comment se déplacer dans cette salle plus vite? Peut-être des rollers. Allez-y, monsieur. Nouvel intervenant dans la salle. Alors, d'après les diagrammes à l'écran, il semblerait que le DNSSEC doit être mis en œuvre par différentes parties. Donc, mis en œuvre par les FSI qui doit les soutenir, les opérateurs de registre, et chaque site web doit le soutenir. Dan au micro. En fait, chacun des noms de domaine. Oui, effectivement, mais il y a deux aspects. Il y a l'aspect validation, vérification que les FSI, fournisseurs de services Internet, font. Et ça, c'est relativement facile à faire. Vous pouvez relier ce genre de choses ou vous pouvez vous adresser à votre fournisseur. Mais il faut que vous soyez conscient que s'il y a un problème de signature, vous pouvez prévenir les autres. Attention, n'allez pas sur ce site. Donc, vous pouvez les prévenir si vous rencontrez des problèmes. Ça, c'est pour ce qui concerne la validation. Pour ce qui concerne la signature, oui, ça implique la racine signée en 2010 et la plupart des TLD génériques et les nouveaux TLD génériques ont tous été signés au premier niveau. Beaucoup des extensions génériques GTLD ont été signées, même si l'Afrique n'a pas encore signé ces GTLD, et on a travaillé avec certains d'entre eux. Il faut que vos bureaux d'enregistrement soient soutenus parce qu'il faut qu'il y ait cette signature. Donc, il y a d'un côté la validation qui est simple et celui de la signature où il faut qu'il y ait ces trois acteurs qui participent. Julie, vous voulez intervenir? Julie au micro, oui. J'aimerais rappeler aux gens, s'il vous plaît, lorsque vous posez une question, présentez-vous, s'il vous plaît, au micro. Oui, par rapport à la validation des FSI, environ 20% des demandes de DNS passent par le résolveur. Donc, ce n'est pas un chiffre aussi bon que celui qu'on escompterait, mais bon, c'est un beau pourcentage. Danomicro, oui, on le fait par défaut. Donc, pour ceux qui utilisent les adresses IPv6, tout cela est validé par défaut. Oui, l'orateur au micro, Steve, je suis de Amazon. Alors, Danomicro, vous, en tant que titulaire de nom de domaine, vous n'avez pas forcément grand-chose à faire. Mais ensuite, le DNS qui héberge l'opérateur, lui, a quelque chose à faire. Donc, très souvent, c'est également le bureau d'enregistrement, mais pas forcément. Par exemple, vous, vous êtes opérateur DNS. Donc, vous servez toutes ces zones. Il faut trouver les zones, parce qu'à chaque fois qu'il y a des changements, il faut y avoir de nouvelles signatures. Jacques veut répondre. Mais l'important, c'est que les opérateurs doivent signer et les bureaux d'enregistrement doivent obtenir ces informations pour les transmettre aux bureaux, aux opérateurs de registre. Et l'important, c'est que les bureaux d'enregistrement qui ne soutiennent pas ou qui ne permettent pas d'avoir des enregistrements, tout cela, ce n'est pas une bonne chose. Alors, il faut passer à un autre bureau d'enregistrement. Mais Jacques voulait intervenir. Jacques au micro, oui. Vous avez dit que vous travaillez pour Amazon. Bon, alors je pense que certains grands opérateurs peuvent signer leur propre zone DNS. Et ce qu'on fait maintenant, c'est d'essayer de mettre en place une nouvelle interface pour que les opérateurs puissent signer eux-mêmes les domaines sans passer par les bureaux d'enregistrement, sans faire... en tout cas, ce problème de signature du DNS, ça, c'est votre responsabilité. Russ au micro, oui, merci de cette question. J'aimerais également ajouter que, de fait, le titulaire du nom, qu'il opère ou pas les services associés au DNS, c'est celui qui prend la décision. Moi, je veux que ce nom du DNSSEC soit signé. Quelles que soient les opérations en jeu. Nombre d'entre nous aimeraient vous donner beaucoup plus de détails sur les questions que vous posez après cette séance. Pour résoudre ce genre de problème opérationnel, et je pense que le principal défi, c'est de faire rentrer cela dans le système DNS. Merci. Dan au micro. Alors, si vous n'avez pas encore saisi le message, sachez que on peut être beaucoup plus pointu encore dans nos réponses. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Adil Sadiq au micro du Pakistan. J'ai deux questions en fait. Lorsque la banque transférait ses informations à l'utilisateur Joe. C'est ma première question. Ensuite, est-ce que le diable peut utiliser ces informations lui-même avant même que la banque ait commencé ce processus? Dan au micro, est-ce que l'un des membres du panel veut répondre à cela? Alors moi, je suis Joe, donc je ne peux pas répondre à cette question, mais en tout cas, bah écoutez, je vais prendre les choses par ordre. D'abord, il y a un problème entre l'utilisateur Joe et son fournisseur de services Internet. La solution à cela, c'est valider un résolveur. Moi, j'en ai un sur mon ordinateur portable. Et je sais qu'on peut en mettre aussi sur les portables. C'est pas difficile, c'est pas sorcier. Il y a d'autres étapes qu'il faut suivre. Il y a un programme qui s'appelle DNS Trigger qui automatiquement peut l'activer si vous êtes dans un hôtel. Ça ne fonctionne pas toujours. Malheureusement, ça se produit. Donc, il y a des solutions pour ce genre de choses. Maintenant, je cale un petit peu sur la deuxième partie de votre question parce que je m'en souviens plus trop. Oui, entre Big Bang. Quel était le problème entre Big Bang et l'utilisateur? Alors, si vous vous souvenez, dans la petite scène qu'on a jouée, tous les acteurs échangeaient une signature auparavant. Donc, ils se sont mis d'accord avant. Donc, lorsque vous vous connectez à votre bureau d'enregistrement, vous demandez un nouveau domaine.com, alors vous pouvez dire à votre bureau d'enregistrement que vous avez besoin d'authentifier les données et qu'on ne peut pas insérer quelque chose n'importe où. Donc, on peut prévenir ce genre d'attaque, de menace. Donc, ce genre de menace aurait pu être prévenu. Pardon. Jacques, tu veux répondre, demande Dan. Non, c'est bon, ça a été fait. Oui, parce que le diable aurait pu intervenir dans le paquet qui était signé. Ça aurait pu être possible, mais c'est une chaîne de confiance entre la racine et le TLD qui garantissent que même si le diable vient avec cette signature, le FSI, le fournisseur de services Internet, peut dire oui, vous avez une signature, mais ça n'est pas la bonne signature. Et donc, ça le renvoie jusqu'à la racine. Donc, le diable aurait pu intervenir entre l'utilisateur et les autres, mais nous avons un groupe de travail qui s'appelle Deprived. D'ailleurs, on a le président de ce groupe de travail qui se penche sur la manière de rendre cette communication entre l'utilisateur et le DNS sûre pour garantir une communication sûre entre le fournisseur de services Internet et l'utilisateur. Donc, l'une des manières, c'est par exemple que l'utilisateur assure cette vérification lui-même. Madame Tijani, au micro. Alors, par rapport à ce processus de signature et la validation, il s'agit d'un certificat qui... Moi, j'ai une question sur le certificat et la validation. Dan, au micro. Oui, bien sûr, je vais vous donner plus de détails. Donc, lorsque vous signez une zone, il faut stocker des clés sur votre machine. Et il y a tout un document qui concerne la meilleure façon de le faire. Je ne me souviens plus de la référence de ce document, mais il existe. Donc, il faut stocker le certificat et les clés. Et ce que vous introduisez dans le DNS, c'est quelque chose de public. Donc, vous faites un lien entre cette clé publique et le DNS. La clé privée, vous la gardez sur votre machine ou de préférence sur un autre ordinateur. Et le DNSSEC a été conçu de telle manière que vos clés privées soient stockées dans un endroit très spécial et que vous ne les sortiez que dans certains cas. Donc, certaines personnes conservent leurs clés privées en ligne pour qu'elles soient rapidement mises à jour, parce qu'ils les changent très souvent. Mais ça n'est pas nécessaire. Dan au micro, oui, il y a ce qu'on appelle le document DPS qui sont disponibles pour tous les TLD et qui explique ce qu'ils font. La zone racine a un processus très strict pour protéger les clés privées et pour... Mais ça rentre dans trop de détails, donc je ne vais pas en parler ici. Mais les TLD utilisent d'autres mécanismes pour les domaines individuels. Et tout ça, ça dépend du niveau de risque que vous voulez prévenir. Donc, à l'intérieur de votre logiciel et du serveur que vous utilisez, le résolveur DNS va fonctionner de telle ou telle manière. Donc, en fait, dans un fichier de configuration, on va vous dire, voilà, il faut faire appel à ce résolveur et le DNSSEC va intervenir. Mais c'est très facile de retirer la partie commentaire et ça disparaît. Parfois, il y a eu une autre étape supplémentaire et il commence à faire cette validation pour tout le système DNS. Alors, j'aimerais souligner aussi, Ross au micro, que beaucoup de gens se penchent sur ce qu'ils considèrent être les principales fonctionnalités du DNS qui sont associées à leurs propres opérations du DNS. Donc, la racine a toute une structure de sécurité qui est très importante. Il s'agit de modèles de sécurité. Beaucoup de TLD utilisent aussi des modèles de sécurité. Donc, la seule manière de resigner une zone, et il s'agit du niveau le plus élevé de resignature, c'est de passer par une procédure très longue. Et donc, c'est un travail très lourd. D'autres gens disent, voilà, ce contenu, en fait, n'est pas sensible. Et l'entreprise pour laquelle je travaille sous-traite finalement et ils ont déjà mis en place ces procédures. Donc, chaque activité individuelle doit voir dans quelle mesure leur DNS est sensible à ce genre de choses ou pas. Donc ça dépend de votre gestion des clés. Mais il faut le voir au cas par cas pour chacune des activités. Mais il y a beaucoup d'aides disponibles et pour la plupart gratuites parce qu'il y a beaucoup d'informations qui ont été publiées, il y a beaucoup de ressources disponibles et d'informations disponibles qui peuvent vous aider à prendre cette décision. Parce que souvenez-vous qu'il s'agit surtout du contenu et de l'utilisation qui va être faite du contenu. Dan au milieu, oui. Moi, je dirais que en tant qu'utilisateur individuel... Ah, excusez-moi, Jacques voulait intervenir. Jacques au micro. Oui, pour les logiciels commerciaux, cliquez sur oui et en général, vous allez bien le faire. Dan au micro. Pour certains de mes domaines, les opérateurs DNS que j'utilise font que je vérifie une case et ils s'occupent de tout. Et pour un autre, je dois aller dans d'autres sections pour voir ce que fait le DNS et je clique là-dessus pour dire, voilà, il faut que ça, ce soit le DNS qu'il fasse et c'est tout ce que j'ai à faire. Et ensuite, eux s'occupent de changer les clés pour moi et ils le font de manière automatique. Alors, j'ai parlé de validation et mon ami Paul, qui se trouve ici, m'a dit que les nouvelles versions de reliées ou non reliées sont des validations DNSSEC. Nouvel intervenant au micro, oui, il y a aussi des fournisseurs DNS qui très prochainement vont faire le DNSSEC pour tous. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Dan au micro, oui, il y a également un atelier DNSSEC de 9h à 15h30. Ça figure sur l'ordre du jour, le programme de la semaine. Sur la signature du DNS et tous ces aspects très intéressants du DNS. On va parler également du travail de l'équipe qui signe ses noms à haut niveau. Nouvelle intervenante dans la salle. Bonjour. Alors, on parle des clés. Est-ce que ces clés ont une date d'expiration? Quelle est la durée de validité des clés? Et que se passe-t-il lorsqu'elles expirent ces clés? Dan au micro. Alors, je vais d'abord répondre à la deuxième question. Donc, si vous pensez au fait qu'il y a des signatures de vérification et que la signature cesse d'être valide, que pensez-vous qu'il va se produire?
Le résolveur de validation va dire c'est ce n'est pas bon, ce n'est pas exact, vous ne pouvez pas atteindre votre destination. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a un an et demi, si je me souviens bien, la NASA aux États-Unis, nasa.gov, l'agence spatiale, avait signé leur domaine et tout se passait bien. Comcast, c'est un opérateur très important aux États-Unis, a démarré la validation de DNS pour des millions de clients aux États-Unis. La validation était bonne pour tout le monde. Tous ces gens avaient la validation DNSSEC. Tout se passait bien. Et les gens de la NASA ont fait une petite erreur. Quelqu'un n'a pas fait très attention sur la date de validation, la date d'expiration. Typiquement, pour une clé, on fait les choses pour une année. Il y a un processus un peu plus compliqué, il y a des clés pour signer la zone et ainsi de suite. Mais la grande clé dont vous devez vous préoccuper, elle est là pour un an. Donc, à la NASA, quelqu'un ne faisait pas attention. Il n'a pas fait son travail. Et la clé a expiré. Donc, d'un seul coup, tous les gens qui étaient sur le réseau Comcast, et c'était même avant Google, ce serait pire aujourd'hui d'ailleurs, tous les gens qui étaient sur le réseau Comcast ne pouvaient pas rentrer sur le site de la NASA, ne pouvaient rien voir, pas de photos de l'espace, rien du tout. Le problème, bien sûr, était que tous les gens pouvaient sortir leur téléphone portable et regarder dessus. Et comme leur réseau ne faisait pas la validation DNSSEC, ils ne pouvaient pas aller sur le site. D'un seul coup, il y avait un autre facteur, au fait. Cela s'est passé le jour où, vous vous rappelez, lorsqu'il y a eu un blackout à travers le web à cause des problèmes de législation qu'il y avait aux États-Unis. Il y avait des problèmes avec le gouvernement, avec le Congrès des États-Unis. Ce jour-là, il y a beaucoup de sites qui se sont fermés ce jour-là en protestation contre le gouvernement américain. Donc, c'était ce jour-là que les choses se sont passées. D'un seul coup, Comcast, il y avait des gens qui pouvaient aller sur le site de la NASA sur leur portable, et d'autres gens sur leurs ordinateurs ne pouvaient pas aller sur le site. Donc, les gens disaient, Comcast doit être en train de bloquer la NASA. Donc, il y avait un tas de conflits. Tout le monde disait, oh mon Dieu, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Ça a été résolu, bien sûr. Et Comcast, depuis ce jour-là, a mis des mesures en place. Et donc, les gens de la NASA étaient excellents. Ils ont bien travaillé avec Comcast pour documenter ce qui s'était bien passé. D'ailleurs, je me souviens, ils ont fait une présentation durant un de nos ateliers il y a quelque temps. En fait, c'était un peu plus d'un an et demi. En fait, ça s'est passé il y a plus de 3 ans. J'avais oublié. Donc, la réponse à votre question, c'est que si vous ne faites pas les choses de la bonne manière, cela peut créer un gros problème. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des systèmes qui sont en place, qui sont automatisés et qui prévoient ce problème. Est-ce qu'il y a des gens du Kenya ici? Il y a quelqu'un du Kenya? Il y a eu un problème au Kenya il n'y a pas très longtemps, il y a un an, je crois. Oui. Bon, ok, en 2014, ouais, l'année dernière, peu importe, il y a quelque temps, le Kenya a eu un problème avec cela aussi. Il y a eu une date d'expiration sur le TLD, sur le point KI. Donc, d'un seul coup, la chaîne de confiance s'est cassée parce que le TLD, d'un seul coup, avait une mauvaise signature. Donc, tous les gens qui étaient signés sous cette ombrelle disaient, bon, tout va bien. Mais quand le résolveur a voulu remonter la chaîne, ils sont arrivés à KI, et KI ne fonctionnait pas. Donc, la chaîne de confiance ne fonctionnait plus. Donc, vous voulez assurer de savoir quand la clé expire. Donc, signer, ce n'est pas seulement faire une chose. Il faut faire attention à tout ce qui est inclus. Il faut faire très attention en tant que consommateur. Moi, en tant que consommateur, je vais voir mon domaine et tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer sur la petite case. C'est tout. Je n'ai pas à m'assurer de tout cela. Cela est fait pour moi. L'automation et les outils. Il y a plein de nouvelles choses. Il y a des outils sur le DNS qui existent. Il y a beaucoup de choses qui existent maintenant. Je pense qu'il nous reste du temps pour une question, peut-être. Oh, il nous reste 15 minutes. C'est très bien. Y a-t-il d'autres questions? Oui, là-bas. Madame Sorgen de l'Ouganda, qui se préoccupe de ces signatures? Qui est responsable de ces signatures? Est-ce que le propriétaire du nom de domaine, le serveur, qui est en charge? Dan, oui, c'est la personne qui fournit le service DNS. Donc, la personne, le propriétaire du nom de domaine, le titulaire du nom de domaine. Quelqu'un lui fournit l'information. Ross, comme lui, dans la photo, qui faisait le Big Bang, c'est lui qui fournissait l'information pour Big Bang. C'est lui qui avait les signatures. Vous êtes le titulaire. Vous êtes arrangé avec lui pour qu'il le fasse. Vous allez peut-être le faire vous-même. Le monsieur là-bas de Amazon, il a son propre serveur. Il gère son propre serveur, donc il fait tout ça lui-même. Votre équipe technique, s'ils peuvent le faire eux-mêmes, ils peuvent le... Mais c'est donc la personne qui opère le serveur. Y a-t-il d'autres questions? Il nous reste encore du temps. On peut avoir des questions en français. Si vous avez des questions en français, Jacques va les traduire pour nous. Il n'y a pas de problème. Allez, envoyez l'autre intervenant. Dit oui, posez une question en français. Ce serait sympa d'entendre Jacques répondre. Son français n'est peut-être pas le même que le vôtre. L'intervenant dit je...
Convenu que...
Look at him, not me.
Puisque vous avez convenu que la signature, c'est pour la résolution. Et donc, dans la suite de sa question, je ne comprends pas pourquoi. Quel est le rôle joué ici par les registrars? Donc, j'aimerais qu'on remonte jusqu'au registrar pour indiquer un peu le processus de signature, en fait.
So, quel est le rôle principal des registrars?
Voilà, dans ce processus de signature.
Ça, c'est une très bonne question.
This is a very good question.
Les registrars, ils n'ont pas vraiment un rôle important avec DNSSEC. Il n'y a pas de valeur ajoutée aux registrars à faire DNSSEC. Donc, c'est un problème qu'on a au Canada pour .ca. On a en environ 180 domaines qui sont signés. La raison, c'est... je pense que seulement un registrar sur 180 supporte DNSSEC. Ils ne sont pas intéressés. Ça, c'est un coût additionnel à leur opération. Donc, la méthode, c'est de... On est en train de rechercher une nouvelle méthode pour signer les noms de domaine sans utiliser les registrars. Si mercredi, à la session DNSSEC Workshop, si tu viens faire un tour, on parle de ça pendant cette journée-là.
D'accord. Did he answer you correctly?
Dan, est-ce qu'il a répondu à votre question de façon correcte? Oui. Si on avait des gens qui voulaient parler l'allemand, je pourrais les aider.
Lobo Maïga du Mali. Juste une question rapide. Est-ce que ICANN publie aujourd'hui une liste des registrars qui supportent DNSSEC pour le GTLD?
Pour les GTLD, c'est obligatoire de supporter DNSSEC. The registrars, DNSSEC for GTLDs, do the registrar need to support DNSSEC?
Est-ce que les registrars doivent soutenir le DNSSEC?
DNSSEC, mais ils ne les supportent pas tous.
Oui, mais en fait, ma question, c'est est-ce qu'il y a une liste qui est publiée et qui est mise à jour par ICANN?
Ah, non. Il n'y a pas de liste publiée.
Ok, je vais encore parler en français. On dit souvent, il n'y a jamais 203. Moi, je vais poser une question peut-être un peu difficile, parce que le DNSSEC, j'ai eu l'occasion de travailler dessus à l'université. Et c'est une technologie qui a été publiée depuis plus de 20 ans, aujourd'hui, ou 19 ans précisément peut-être. Mais qu'est-ce qui peine aujourd'hui fondamentalement à ce que le DNSSEC soit déployé partout? Il y a plusieurs acteurs dans la chaîne. Est-ce que ça bloque au niveau d'un acteur principalement?
En ce moment, ça bloque au niveau des registraires surtout. Ceux qui signent les noms de domaine, c'est les DNS, les opérateurs de DNS. C'est eux qui veulent signer les noms de domaine, mais ils sont trop loin des registries pour pouvoir créer la chaîne de DNSSEC. Donc, les registraires, ils ne supportent pas DNSSEC. Ça, c'est un gros élément qui bloque. La technologie pour signer, comme avec Bind, Microsoft, tous les noms de serveurs, ils supportent DNSSEC. Red Hat, ils supportent DNSSEC dans la boîte par défaut. Donc, ça s'en vient bien, mais le gros problème, c'est les registraires.
Okay. J'ai oublié de me présenter, Raman Biaou, du Bénin.
I am from Benin. Oh. Dan on the phone. I on the mic. Oh, we have on a de la traduction.
Pour terminer, encore une question en français. Je suis Thierry Piette-Coudol, avocat au barreau de Paris. Et je suppose que dans cette organisation de sécurisation du DNS, la société VeriSign fournit un certain nombre de produits et de services, et je voudrais rappeler l'importance du support de VeriSign pour développer la signature électronique dans le monde juridique. Aujourd'hui, la signature électronique est utilisée par les juristes et les techniciens. Donc ma question, c'est, avez-vous des rapports, des relations avec des juristes? Est-ce que vos relations sont bonnes? J'ajouterai aussi cela, c'est que l'Union européenne développe beaucoup de projets d'études dans la sécurisation des échanges électroniques, qu'il y a un gros règlement européen 910/2014 sur les services de confiance qui sera en application dans toute l'Europe au mois de juillet et qui réglemente l'utilisation de la signature électronique dans tout le continent européen, au niveau juridique et au niveau technique. Au niveau technique, c'est l'Institut européen des normes de télécommunication qui a fait le travail. Ce sont des normes techniques qui sont acceptées par les juristes. Avez-vous des relations avec les juristes?
Oui.
So, I can answer.
Dan, je peux répondre en anglais. Vous avez soulevé un point excellent. Je ne suis pas familier avec la législation qui se produit là-bas. Je me souviens que les gens qui se préoccupaient des politiques en discutaient. Je vais donc retourner vers eux pour en apprendre un peu plus. Il y a ici une opportunité pour voir comment le DNSSEC pourrait faire partie de ces discussions. Merci pour cette suggestion. C'était très, très bon. Et nous allons noter cela pour pouvoir obtenir des informations. Nous avons parlé aux gens qui sont dans l'industrie du contenu, les gens dans le show business, par exemple, pour qu'ils puissent protéger leur site afin de s'assurer du contenu. Je vous remercie. Jacques, je vais continuer en anglais. Donc, la discussion était autour des signatures légales, les signatures électroniques, pour pouvoir lier cela avec le DNSSEC. Dans l'avenir, Dane, justement, dont on parlait tout à l'heure, pourrait être un cadre de travail pour permettre cela au niveau du DNS mondial. Je ne sais pas ce que nous avons à faire pour ce que nous devons faire pour cela, mais ça pourrait être une chose à faire potentiellement. Dan, y a-t-il autre question? Une question de plus?
Bonsoir, Olivier de Web Génération du Congo. J'aimerais savoir pendant combien quand en fait on pourra détecter qu'un nom de domaine ou est déjà en fait signé DNSSEC, parce que en atelier sur CASA on a fait un petit atelier. Et on s'est rendu compte que pour savoir qu'un nom de domaine est signé, il fallait installer un plugin sur un navigateur pour savoir effectivement si il est signé DNSSEC ou pas. Alors j'aimerais savoir qu'est-ce qui bloque en fait cela quoi. Pourquoi aujourd'hui les navigateurs ou encore certains outils n'ont pas encore la possibilité de détecter automatiquement comme on le fait avec le SSL.
So the question for those was why is there no way to know in a web browser?
Pourquoi n'y a-t-il pas moyen de voir dans un navigateur si le nom de domaine est signé? S'il faut utiliser un plugin, pourquoi cela ne fonctionne pas autrement? Je vais vous poser une question. Combien d'entre vous font attention au petit verrouillage vert qu'il y a sur votre navigateur? Combien d'entre vous, quand vous obtenez cette notice qui dit le certificat n'est pas correct ou quelque chose comme ça, combien d'entre vous continuent à cliquer pour continuer? Oui, voilà. Il y a donc la trouvaille qui a été faite, c'est que la plupart des gens ignorent cela. On voit bien le petit verrouillage. Mais s'il y a un problème avec le verrouillage, on continue parce qu'on veut arriver au site en question. Donc, c'est un identifiant visuel que les noms de domaine utilisent pour prouver qu'il y a une signature. On a prouvé comme quoi elle ne fonctionnait pas. Donc, ce qui se passe dans l'espace DNSSEC se passe en dessous ce niveau-là. Si le nom de domaine est signé et que s'il est bon, ça se voit. S'il est bon, qu'il a été signé mais qu'il n'est pas bon, vous n'y arriverez pas. Vous allez obtenir ce qu'on appelle un signal échec. Vous ne pouvez pas atteindre le site. Donc, il n'a pas d'interaction entre l'utilisateur. L'utilisateur ne voit pas ce signal. Donc, pour l'instant, afin de voir si un domaine a été signé, il faut utiliser d'autres outils qui vous permettent de voir si le site a été signé. Il y a des gens qui essaieraient de vous faciliter les choses. Il y a un navigateur que l'équipe de Ross a développé qui fait cela. Il y a des plugins, comme vous l'avez dit, qui font cela. Mais il y a une espèce de division. Il y a des gens qui voudraient utiliser ça. Il y en a d'autres qui disent « Oh, on devrait s'assurer que telle ou telle chose est sécurisée. » Je ne sais pas quand on va en arriver à ce point-là. C'est comme une guerre de religion. Ross, au micro, comme l'a dit Dan, les recherches ont démontré que l'efficacité de mettre un indicateur visuel pour les utilisateurs était c'était questionnable. Les gens veulent savoir où ils vont aller. Donc, et aussi un autre contre-argument, disons, c'est est-ce que le DNSSEC est présent ou pas? Beaucoup de gens veulent que cela vienne de système de défaut, si vous voulez. Les seules fois où vous avez besoin d'un indicateur, c'est quand le DNSSEC ne fonctionne pas. Donc, on voudra en arriver à un point où on pourrait voir si, oh, il y a un problème DNS, quand il y a un échec du DNSSEC. Donc, c'est pour ça qu'on continue à avoir ces ateliers d'apprentissage pour que les gens puissent venir dire, nous poser cette question, pourquoi je ne vois pas l'information? Il faut passer l'information faites passer ça dans vos départements IT, vos fournisseurs. Dan, nous n'avons plus de temps, il nous reste deux questions, je crois, mais si vous êtes intéressé à avoir plus d'informations, nous avons cet atelier mercredi et nous allons vous livrer plus d'informations à ce moment-là. Y a-t-il d'autres questions? La nouvelle intervenante au micro, je m'appelle Namsa. Je suis du Zimbabwe. Vous avez mentionné tout à l'heure que le trafic africain, le trafic du DNS africain, que dans cette, votre observation était qu'il n'y avait pas assez, il n'y avait pas beaucoup de DNSSEC. Est-ce qu'il y a des moyens pour vous de faire du renforcement de capacité? Et comment allez-vous le faire, Dan? Oui, il y a beaucoup. Ah, une fois que la racine du DNS a été signée en 2010, beaucoup d'autres TLD à travers le monde ont commencé à signer. Mercredi matin, quand je vous montrerai une carte de la du monde et je vous montrerai le déploiement de DNSSEC, vous verrez beaucoup de ces TLD africains n'ont pas encore signé. Il y a d'autres choses qui se passent en ce moment et qui changent les choses. Il y a un monsieur qui a parlé de l'atelier tout à l'heure, qui se passe de l'atelier qui a été fait par ICANN, ISOC. Ces ateliers sont faits par l'ISOC, par l'ICANN dans différents pays. Ils essayent de travailler avec les bureaux, les opérateurs de registre et d'autres acteurs dans les régions pour parler de la signature d'ENSEC. Est-ce que des gens ont participé à ces ateliers? Marc, oui, ce monsieur, là, il est allé aux ateliers de travail. Nous avons mis en place ces ateliers pour essayer de construire là-dessus, si vous voulez. Si vous allez à DNSSEC, afrique.org, c'est un site qui est sur lequel Monsieur Alda travaille. Il y a des statistiques DNS qui montrent quels sont les pays qui ont signé et ceux qui n'ont pas signé. Il y a des liens aussi afin que vous puissiez apprendre plus de choses sur ce sujet. Au verso de cette feuille, si vous ne l'avez pas eu, il nous en reste d'ailleurs, il y a une liste de ressources que vous pouvez utiliser. Il y a des informations sur le déploiement du DNSSEC, sur les outils que nous avons utilisés et beaucoup d'autres informations que vous pouvez trouver sur l'Internet. Voilà, vous pouvez commencer par ça si vous voulez. Cela n'a pas le lien DNSSEC.africa. Je pense que nous n'avons pas encore eu l'occasion de le mettre là, mais c'est une bonne fiche à consulter. Monsieur ici, une autre question? Je suis du Maroc. Est-ce qu'on peut dire que c'est une des raisons pour laquelle le DNSSEC est très lent dans son déploiement? C'est parce qu'il y a d'autres outils qui nous facilitent la vie pour nous protéger contre l'usurpation? Il y a de l'usurpation à distance aussi et cela est rendu plus difficile, n'est-ce pas? Dan, la réponse à cela, c'est que le déploiement se passe bien. Nous en sommes à 20% du déploiement. Le problème, c'est que le DNSSEC résout seulement une pièce du puzzle. Du côté TLS, il y a d'autres technologies qui existent, comme certains certificats, certains outils qui sont utilisés dans ce secteur. Le DNSSEC résout son problème, sa pièce, son morceau du puzzle, de façon très, très, de très bonne façon. La personne au micro, est-ce que le DNSSEC va nous protéger contre l'usurpation sur l'Internet? Mais est-ce qu'on peut se protéger dans tous les environnements? Si le déploiement du DNSSEC est si lent, est-ce que c'est à cause de l'usurpation? Dan, je ne suis pas sûre. On peut en parler plus longtemps. Il y a certainement d'autres méthodes d'usurpation de sites. Il y a d'autres mécanismes de protection. Le DNSSEC résout ces problèmes de DNS. Le DNS assure que l'adresse IP est correcte. Il y a d'autres sortes d'usurpation. Au micro, vous devriez aller avec l'homme au milieu. Et il y a d'autres mécanismes pour résoudre ce problème. Dan, au micro. Je vous dirais qu'il y a certainement d'autres systèmes. DNSX est juste une partie de la défense. Pour nous, sécuriser le DNS, c'est ce qu'on fait. À notre opinion, on a besoin que DNSX nous amène vers un Internet de confiance qui nous permet d'avoir toutes les opportunités que l'on veut. Et c'est l'outil qui nous permet de faire cela. Warren, au micro. Beaucoup d'autres attaques, genre l'homme au milieu, toutes ces choses, l'empoisonnement et tous ces autres systèmes d'usurpation sont... Pour ce qui est de l'empoisonnement du DNS, si vous n'avez pas DNSSEC, vous pouvez le faire dans beaucoup d'autres secteurs, à partir de n'importe où dans l'Internet. Vous pouvez avoir un impact sur beaucoup d'autres utilisateurs. Donc, l'ampleur de l'attaque peut être beaucoup plus importante. Vous avez besoin beaucoup d'ensemble de protection. Le DNSSEC en fait partie. Dan, il y a aussi d'autres mécanismes qu'on appelle des mécanismes qui doivent être en lesquels on doit faire confiance à la première utilisation. Donc, avec cela, je voudrais résumer vite fait, parce qu'on a passé de temps. Je voudrais vous donner cette fiche sur laquelle il y a les liens vers des ressources avec lesquelles vous pourrez apprendre plus. Encore une fois, il y a l'atelier le mercredi. Pour certains d'entre vous, le début de cet atelier va être intéressant puisque nous allons parler des applications DNSSEC à travers l'Afrique. Il y aura un panel avec Marc et d'autres personnes, Aline, qui viendra parler du travail qu'il fait. Donc, cette partie de la réunion pourrait être intéressante pour certains d'entre vous. L'ordre du jour est sur le site web. Cet atelier, encore une fois, prendra place mercredi. Nous espérons que nous serons à l'heure. Et je voudrais applaudir tous les gens qui sont là sur le panel et qui m'ont aidé à faire cette présentation. Nous sommes là encore quelques minutes si vous voulez venir nous parler. Merci.